Alors, rebonsoir. Je vais, comme il vient d'être dit par Xavier, essayer de vous présenter l'histoire de l'islam dans sa genèse. Et pour cela, je mettrai davantage l'accent sur l'histoire des textes. Et pour cela également, je vais devoir vous parler de ce qu'on appelle les fondements du droit musulman, afin que nous situions ensemble la nécessité d'étudier ces textes. Alors, très rapidement, on va diviser cette intervention en trois parties. Une partie qui sera axée sur la genèse de l'islam en tant que religion. Une deuxième partie qui traitera de l'histoire du Coran, et une troisième qui parlera de la manière dont les hadiths ont été compilés avec les définitions de ceux-ci, bien entendu, et quelques questions problématiques que nous soulèverons afin que, de manière critique, nous abordions les choses et de manière scientifique, sans parti pris aucun. Alors, on parle d'islam aujourd'hui comme d'une religion avec les contingences que l'on connaît par rapport à la violence d'aujourd'hui et à beaucoup d'autres questions. Donc l'islam interroge, et il me paraît important aujourd'hui que, puisque nous sommes ensemble, nous essayons de manière scientifique revenir à ce qu'est l'islam en tant que terme, déjà. Et je serais très curieux et intéressé d'entendre de vous, de vos bouches, ou de votre expérience, ce que vous entendez par ce mot. D'abord, avant de faire une entrée en matière, qu'est-ce que vous entendez par le mot islam ?
Ça veut dire paix. Une définition pure.
La définition pure. Alors, ça, c'est une fausse bonne idée. C'est ce que l'on va dire par la suite chez les théologiens musulmans. Mais le terme islam est un terme qui est, en linguistique, enfin pour utiliser des termes un peu barbares, un terme dit hamzé. C'est-à-dire qu'il est... On a, à la base...
Oui, on peut te mettre le tableau, si tu veux.
Le propre des langues sémitiques, et vous le savez certainement, est d'être un ensemble de langues dont le sens des mots est lié à ce qu'un linguiste qui s'appelait McCarthy a appelé en 78 la notion de binyan. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez trois consonnes qui constituent ce qu'on appelle la racine, ou ce qu'on appelle, en d'autres termes, le squelette consonantique, et qui, au fond, vont être celles qui portent le sens. Donc, par exemple, J, G, K, T et B. Dans cet ordre, quelle que soit la langue sémitique que nous prendrons, qu'il s'agisse de l'hébreu, de l'arabe, du sumérien, etc., eh bien, le mot qui émanera de ces trois consonnes ainsi disposées aura ipso facto un lien avec l'écriture. Ce qui n'est bien entendu pas possible dans une langue latine comme la nôtre. Si je prends P et P, par exemple, je peux mettre ici pas et pas là, ça me donne papa, qui n'a aucun lien avec pipi, qui n'a aucun lien avec d'autres choses. En sémitique, c'est impossible. J'ai K, T et B, merci. J'ai K, T et B, je mets A ici et A là, plus la forme de forme du passé en arabe ou la forme verbale, j'ai kataba qui veut dire écrire. Je vais mettre i ici, un i long là, et a long ici, j'ai kitab qui veut dire le livre. Je veux dire l'écrivain, j'inverse, je mets a ici et i là, ça me donne katib, l'écrivain. Ainsi de suite. C'est la même chose qu'en hébreu. Et d'ailleurs, cette racine-là, en hébreu, ça donne kitav. Enfin, pour des raisons phonétiques que je ne vais pas vous embêter à faire, parce que je suis un peu linguiste. Ceci pour vous dire que, quand on a un mot comme islam, on doit nécessairement chercher à en connaître les consonnes qui constituent son étymon. Et très facilement, on arrive aux trois consonnes que l'on peut avoir ici, S, L, M, qui en sémitique veut dire deux choses. La première, c'est être dépourvu de défaut. De défaut. D'ailleurs, il y a un pluriel qui s'appelle Jam'u al-Mudhakkari al-Salimi, le pluriel masculin saint, ou Jam'u al-Mu'annath al-Salimi, le pluriel féminin saint, pour dire que c'est un pluriel régulier, même si ça ne veut rien dire du tout linguistiquement parlant. Mais ça, c'est ce que ça veut dire d'entrée de jeu. Quand tu as quelqu'un qui rentre de voyage, d'ailleurs, on dit Saliman Raniman, il est rentré. En parfait état, sans aucun problème. Donc c'est ce que saint et sauf. Mais sauf que, exactement, c'est le terme. Il est rentré sain. Il n'a pas de difficultés, il n'a pas été blessé, etc. Donc on va utiliser le terme SLM. Donc Salim, avec bien sûr une inférence adjectivale derrière. Deuxième chose, SLM veut dire également la notion de paix, comme il a été dit tout à l'heure. Au fond, cette notion découle de la première. Mais on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Raison pour laquelle les Arabes, avant l'islam d'ailleurs, quand ils se saluaient, ils te disaient « Assalamu alaikum » parce que ce n'est pas l'islam qui est venu instituer cette manière de dire des choses, mais les Arabes se disaient « Salam » de cette manière. Et c'est quelque chose qui varie d'une langue à l'autre. En français, on dit « bonjour », mais vous allez dans d'autres langues, on vous dit « quelles sont les nouvelles de la journée » pour se dire « bonjour ». Enfin bref, ce serait beaucoup, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc la notion de soumission est une notion qui, linguistiquement, n'a rien à voir avec le mot. Ce qui va se passer par la suite, c'est quoi? C'est que les théologiens musulmans vont à un moment donné devoir théoriser. Et en théorisant, ils arriveront à l'idée que, entre autres choses, même si par la suite les choses ont été changées, ils arriveront à l'idée que, comme quand tu crois en Dieu, tu t'inscris dans une relation de confiance avec lui, eh bien tu t'abandonnes à lui, eh bien cet abandon-là, c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent soumission, comme on est soumis à quelqu'un dont on est amoureux. Une sorte de lâcher prise. C'est ce que ça veut dire, c'est la raison qu'ils l'ont traduit par le terme « inqiyad ». Sinon, sur le plan purement linguistique, ça n'a strictement rien à voir avec soumission. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi, mais bon, c'est amusant d'entendre des gens, d'ailleurs, qui se disent intellectuels, balancer des généralités comme ça, mais ça n'a strictement rien à voir. C'est les théologiens qui vont, par la suite, donner cette manière de voir les choses. Mais initialement, le terme islam, donc je vous disais que c'est un mot hamzé, pourquoi? Parce que quand il y a ce qu'on appelle en français une extension de valence équivalente de ce qu'on appelle faire en français, j'ai par exemple dormir, soit on dit endormir ou faire dormir quelqu'un. Donc on rajoute le causatif. Eh bien, en arabe, si le verbe salima, qui veut dire être dépourvu de défaut, donc je vais l'écrire comme ça, maintenant vous comprenez la manière d'écrire les choses, eh bien quand je veux dire que la personne, je vais dépourvoir la personne de défaut, eh bien je rajoute ici ce qu'on appelle un coup de glotte, ici là, Donc je dis aslama, c'est que j'ai rendu la personne dépourvue de défaut. Et sur cette racine, je vais construire ce qu'on appelle le masdar en arabe, islam, qui voudra dire le fait d'être dépourvu de défaut. Mais par la suite, encore une fois, les théologiens ont construit ce que je viens de vous dire et ce que Monsieur Tout-le-Monde répète ici et là. Mais bon, c'est juste une petite parenthèse qui n'est pas vraiment en relation avec ce que nous avons à dire aujourd'hui. Mais une petite mise en bouche pour que d'entrée de jeu nous posions le cadre et que nous sachions dans quoi nous allons travailler. Alors l'islam, vous êtes très au fait de sa naissance. Il naît en 610, 40 ans, quand le prophète de l'islam a 40 ans. Il naît à la Mecque et il y reste jusqu'en l'an 13 exactement, où il part à Médine, une petite ville qui s'appelait Yathrib, qui va par la suite devenir ce qu'on appelle la ville lumière, un peu avant Paris, parce qu'on l'appelait Al-Madina Al-Munawwara, la Médine, la ville illuminée ou la ville lumière. Il va y rester 10 ans, ce qui fait qu'en tout et pour tout, le message dure 23 ans. D'autres disent 20 ans, un monsieur qui s'appelle Tabari considère que ça a duré 23 ans, la révélation du Coran. Alors le message commence par le début de la révélation du Coran, dont on parlera à l'instant, et se termine par la mort du prophète, qui intervient à un moment où on dit, selon les textes musulmans, que le prophète a tout dit. C'est-à-dire qu'il a transmis le message et il part après avoir transmis tout le message. C'est comme ça que les choses sont comprises chez les, musulmans. Ensuite, quand il meurt, avant même sa mort, il y avait des difficultés, il y avait des conflits politiques. Et quand il décède, enfin les conflits politiques qui étaient externes à l'islam, mais dont certains également étaient internes, peut-être qu'on aura l'occasion à travers vos questions d'y revenir, à sa mort commence le problème de la succession. Qui est-ce qui va succéder au prophète ? Donc il meurt, je vous ai dit que la révélation a eu lieu en 610, donc vous rajoutez 23 ans, nous sommes en 632, 633, lorsque le prophète décède. Se pose donc la question de sa succession, donc ça c'est la partie histoire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Qui est-ce qui va lui succéder ? Trois groupes apparaissent, qui réclament chacun le droit ou la légitimité d'être le successeur du prophète. Le premier groupe, c'est celui de ceux qui l'ont accueilli après qu'il ait été chassé par les siens. C'est celui de ceux qu'on appelle en arabe « el-ansar », que l'on pourrait traduire en français comme les secoureurs ou les secouristes. Alors, il y a une différence entre secoureurs et secouristes, mais on pourrait les appeler ainsi. C'est en gros comme ça que le Coran les appelle. « Al-Muhajirin ou al-Ansar », ceux qui ont recueilli le prophète chez eux, qui l'ont accueilli, qui étaient deux grandes tribus de Médine. L'une s'appelait Aoussi et l'autre s'appelait Khazraji. Il l'accueille, il vit avec eux 10 ans durant et décède. Leur légitimité, il la tire de beaucoup de choses, dont une qui n'est pas des moindres, qui est que c'est eux qui l'ont accueilli lorsque les siens l'ont chassé. Donc ils se disent naturellement, c'est à nous que revient le droit de porter le message, parce que vous qui êtes des Quraychites, les Quraychites, c'est les habitants de la Mecque, donc le prophète est de cette tribu-là, vous l'avez chassé, nous l'avons accueilli, donc ce n'est pas à vous de lui succéder, mais plutôt à nous de lui succéder. Et ils vont avoir un candidat qui s'appelle Saad ibn Ubadah. Je vais l'écrire selon la phonétique de Saad Ibn Ubadah, fils de. C'est l'équivalent de Ben en hébreu. C'est la même racine. Donc eux, ils l'ont, c'est leur candidat. Et il s'était retiré dans un coin qu'on appelle Saqifatu Bani Sa'ida. Saqifatu Banu Sa'id, Bani Sa'ida, qui est une sorte de tente dans laquelle il s'était retiré dès l'annonce de la mort du prophète, pour, n'est-ce pas, désigner celui qui allait être son successeur. Il faut bien suivre cet état parce que c'est ce qui va marquer l'histoire de l'islam jusqu'à l'heure où nous parlons. Parce que si nous parlons de chiites, sunnites, c'est de là que vient le problème. Si on n'a pas suivi ça, on n'a rien compris. Donc, deuxième groupe, c'est le groupe de ceux avec qui le prophète est parti de la Mecque vers Médine, qu'on appelle les muhajiroun, les exilés. Les exilés forcés. Ceux-là vont dire que nous sommes les légitimes parce que nous sommes la tribu, ou plutôt le groupe social dans lequel la révélation va commencer, et le prophète est un des nôtres, c'est à nous que revient le droit de lui succéder. Et ceux-là vont être trois essentiellement. Il y avait le deuxième calife, donc celui qui allait être le deuxième calife, qui s'appelle Omar ibn al-Khattab. Vous aviez Abu Bakr al-Siddiq, qui va être le premier calife, et vous aviez un autre qui s'appelait Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Les noms m'importent peu, si vous ne les retenez pas, ce n'est pas très grave, même si les deux premiers, vous devez les retenir. Mais je vous l'ai dit quand même, parce que aujourd'hui, c'est sur les textes que nous allons travailler. C'est pour ça que je ne veux pas m'arrêter longuement là-dessus, sinon il nous faudrait au minimum 4 à 5 séances comme ça pour pouvoir rentrer dans les détails. Donc si un nom est très important, je vous le marque automatiquement. Les trois vont se réunir et ils vont surtout avoir vent, d'après les récits de l'histoire islamique, ils vont avoir vent de ce qui se fomentait, entre guillemets, dans la Saqifa, dans la tente où s'étaient retirés ceux qui ont accueilli le prophète. Et ils se rendent compte, disent-ils, du danger que cela pouvait représenter, et très rapidement, ils décident de s'y rendre afin d'éteindre ce feu qui menaçait de prendre. Ils y arrivent, et puis il y avait une troisième faction, un troisième groupe, qui était celui de la tribu exacte du prophète, qui s'appelle Banu Hashim. Banu Hashim, eux, vont estimer que si quelqu'un doit succéder au prophète, c'est un des leurs. Et notamment, le gendre et cousin du prophète, cousin germain du prophète, qui s'appelait Ali ibn Abi Talib. Donc à la limite, si vous voulez retenir trois noms, Sa'd ibn Ubad pour la faction de ceux qui ont accueilli le prophète, retenez Abu Bakr pour la faction de ceux qui sont partis avec le prophète de la Mecque, et enfin, Ali, qui est le cousin et gendre du prophète, pour ceux pour qui les proches du prophète devaient être ceux qui allaient lui succéder. Jusque-là, il n'y a pas de problème ?
Pas de problème.
Bon. Alors, un problème va se poser tout de suite, qui est qu'ils ne vont pas se mettre d'accord. Ils vont d'autant moins se mettre d'accord que les premiers vont estimer une chose très, très, très forte, qui n'est que très rarement abordé par les gens quand ils abordent cette question, je ne sais pas pourquoi, qui est qu'il se disait que les guerres qui se sont faites quand le prophète est arrivé à Médine se sont essentiellement faites contre les Quraychites, donc ceux-là qui ont chassé le prophète et qui sont restés ses principaux ennemis. Donc ils se disent, texto, que si eux, ils prennent le pouvoir, ils vont chercher avant et après tout à se venger d'eux. Donc, il y a une méfiance qui se crée chez eux, qui est compréhensible, ma foi, naturelle, et qui va être justifiée, d'ailleurs, je vais vous le dire dans un instant. Ils vont se dire, il ne faut surtout pas que ce soit eux qui prennent le pouvoir. Donc ils se disent, il ne faut pas que ce soit les Quraychites qui prennent le pouvoir. Auquel cas, nous allons avoir des années de vache maigre, et il en a été ainsi. Mais au bout d'un moment, donc les trois se retrouvent au même endroit, sauf la dernière que je vous ai citée, la famille du prophète. Pourquoi ? Elle ne va pas être présente au débat, dans la Saqifa, parce que le prophète étant mort, Ali, son gendre et cousin, va être occupé à préparer le corps du prophète. Parce que pour sa succession, les compagnons ne vont pas réussir à l'enterrer rapidement. Il restera trois jours dans la demeure où il est décédé, en attendant, bien entendu, qu'il lui soit trouvé un successeur. Donc, ce qui va se passer, c'est que son gendre ne va pas être présent au débat. Or, il s'est trouvé que son gendre était également le favori des premiers. Pourquoi ? Pour une raison toute simple. C'est qu'ils vont se dire, lui, il a plus combattu les Quraychites que tous les autres Quraychites qui sont venus avec le prophète, parce que c'était les leurs, alors que lui, c'était le sien, le prophète. Donc il les a combattus et il en a massacré plus d'un. Donc ils se disent, ceux-là, ils nous ont combattus, mais Ali était plutôt de notre côté, il les a combattus. Donc si quelqu'un doit succéder au prophète, il faut que ce soit lui. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, je ne vous perds pas.
Il était aux côtés de qui, Ali ?
Les premiers, les Ansars, ceux qui ont accueilli. Ouais. Les Ansars voulaient que ce soit lui. À défaut que ce soit Sa'd ibn Ubad, donc un des leurs, ils estimaient que celui qui devait légitimement succéder au prophète, et dont, sans le dire clairement, ils estimaient être proche ne serait-ce que parce qu'il a, à leur côté, davantage combattu les Quraychites que ne l'ont fait les autres compagnons, ils vont se dire, eh bien, à défaut que ce soit un des nôtres, prenons celui-là.
D'accord.
Donc prenons le gendre et cousin du prophète. Et les débats vont être tellement violents et vifs que certains des Ansar, donc ceux qui ont accueilli le prophète et qui s'étaient retirés dans la tente, vont quitter les négociations. Et en quittant les négociations, ils diront le nom de Ali. Il faut que ce soit Ali. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons là trois groupes. Le premier groupe perd. Parce que finalement, ce n'est pas un des leurs qui va succéder au prophète. Le deuxième groupe gagne. Celui des Quraychites. Parce que c'est Abu Bakr qui va être désigné comme successeur au prophète. On va le voir dans quelles conditions. Et le troisième groupe va perdre également jusqu'à ce que Ali vienne au pouvoir. Quelque temps après, 25 ou 26 ans après que les autres se soient succédés les uns aux autres. Donc finalement, c'est ce que va devenir par la suite le chiisme. Mais je vais y arriver dans un instant. Donc la première partie, la première faction a perdu, parce que c'est pas un des leurs qui a gagné. Par contre, ils ne vont pas faire l'allégeance à Abu Bakr. Donc le candidat des Quraychites ne va pas recevoir l'allégeance de cela, dans un premier temps. Tant et si bien que celui-ci, Saad ibn Ubadah, ne va jamais faire allégeance à Abu Bakr. Ça, c'est quelque chose que même le musulman lambda ne le sait pas forcément. Il ne lui fait pas allégeance. Ali, le cousin et gendre du prophète, qui était occupé à préparer le corps du prophète, ne va pas non plus oser faire allégeance à Abu Bakr, pour la simple bonne raison que sa femme, donc fille du prophète, était en bisbille avec Abu Bakr sur une question de succession. Et du coup, il a peur de demander... il ne va pas lui faire allégeance. Donc c'est 6 mois après qu'il viendra, bien entendu, faire l'allégeance. Jusque-là, vous me suivez. Moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est quoi ? C'est deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est le côté humain de cette tchèque-tchouka. Que c'est pas quelque chose de révélé et que c'est quelque chose qui peut avoir lieu ou qui a pu avoir lieu partout, parce que le problème qui va se poser par la suite et qui se pose encore aujourd'hui, c'est que le musulman n'arrive pas à comprendre qu'il s'agit là de choses purement humaines et des plus humaines qui soient. Mais on continue encore aujourd'hui, et c'est pour cette raison que vous avez la guerre les Saoudiens, les Iraniens, au fond tout vient de là. C'est là que tout a commencé. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on continue à attiser les haines à gauche et à droite. C'est parce que les ceux-ci sont comme ci et les ceux-là seraient comme cela. Et on trouve des excuses qui ne tiennent pas du tout scientifiquement. Mais en tout cas, les choses se sont passées ainsi. Donc, va succéder au prophète Abu Bakr, donc celui des Quraychites, des Muhajiroun, ceux avec qui le prophète est parti. Il va rester l'équivalent de 3 ans, 3 mois et quelques, 3 ans et 3 mois et quelques jours. Ensuite, il décède. Mais avant d'aborder ce point, sachez que c'est un peu au forceps que Abu Bakr, donc celui des Mekwa, va gagner. Parce qu'Omar va lui prendre la main et lui dire « Bon, c'est toi maintenant ». Et ça s'est passé comme ça. Et par la suite, les compagnons sont venus à la mosquée, lui prêter allégeance, etc., etc. Mais sous cette tente, les choses se sont passées ainsi. Abu Bakr reste au pouvoir. À sa mort, il désigne un comité. Il dit, voilà, en gros, celui qui va me succéder, c'est Omar. Donc il nomme celui qui va lui succéder, c'est-à-dire celui qui lui a pris la main 3 ans avant et qui a dit, en gros, c'est toi que nous désignons, que nous élisons calife. À la mort de... Lorsque Omar, parce qu'il a été... Abu Bakr est mort naturellement, mais les trois autres sont tous morts, pas directement assassinés, mais des suites des coups qui leur ont été portés. Omar, le deuxième calife, va arriver au pouvoir, lui restera... C'est lui vraiment qui a instauré le système califal avec des organisations, etc., un peu comme pourra lui ressembler... pourront lui ressembler d'autres institutions ou d'autres formes étatiques, mais c'est lui qui donne corps vraiment à une sorte d'État avec des élargissements de routes, avec une mise en place de système social, etc. Bref, beaucoup d'autres choses, mais lui va être désigné comme ça. Abou Bakr, sentant sa mort prochaine, dit que c'est lui qui va lui succéder. Lorsque lui, il est sur son lit de mort, il va demander, il va constituer un comité qui va être un comité constitué de 6 personnes qui vont élire parmi eux une personne qui s'est trouvée être un des gendres du prophète qui s'appelait Othman ibn Affan. Et enfin, lorsque celui-ci est assassiné, c'est là vraiment que commencent les problèmes. Lorsqu'il est assassiné, il s'est trouvé que lui, la gestion du pouvoir qui a été la sienne, était une sorte de népotisme. Lui était considéré comme quelqu'un de très docile. Par contre, sa tribu, qui s'appelle Banu Umayya, elle va s'ingérer dans toutes les parties et tous les niveaux du pouvoir. Et il va procéder à la destitution de tous ceux qui ont été nommés dans les provinces par ses prédécesseurs, et à la place mettre des gens de sa tribu. Et cela va avoir des répercussions très négatives, parce que les gens vont se dire « mais c'est pas l'islam, là on parle pas d'islam, on parle plutôt d'un pouvoir familial, tribal, qui s'impose de cette sorte, etc. » Et cela va lui causer sa mort. Il va être assassiné dans des conditions obscures, dont peut-être on parlera, mais il est mort. Et à sa mort, qu'est-ce qui se passe? Sa tribu va exiger réparation avec à ses côtés des compagnons du prophète, dont la femme, une des femmes du prophète, Aïcha. Estimant que Ali, donc cousin et gendre du prophète, était au courant de celui de qui était l'assassin de Othman et qu'il le cachait. Là commence ce qu'on appelle « al-fitnatu al-kubra », la grande discorde. En réalité, les musulmans ne se sont jamais remis de cette histoire jusqu'à maintenant. Vous avez eu la succession avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais là vont naître des guerres, des conflits, dont principalement deux. Il va y avoir un conflit dirigé par la femme du prophète, une des femmes du prophète qui s'appelait Aïcha, qui va chercher à aller se rallier au gouverneur de Damas, qui s'appelait Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui se trouve être de la même tribu que le calife tué. La nouvelle va parvenir aux oreilles du pouvoir central de Ali ibn Abi Talib, qui va organiser une contre-offensive pour empêcher que la femme du prophète aille là-bas. Et une guerre éclate, à l'issue de laquelle beaucoup de pertes de compagnons sont constatées. Aïcha finalement est ramenée à son endroit, donc elle n'est pas partie. Mais, si vous voulez, les plaies vont rester vives. Jusqu'à ce que, vienne un groupe auquel on va affilier tous les groupuscules musulmans violents, comme Daesh, des gens qu'on appelle les Khawarij. Les Khawarij, ce sont des gens qui, dans un premier temps, vont dire à Ali et à Muawiyah qu'il faut qu'ils se trouvent un terrain d'entente pour qu'on cesse la discorde. Et que ce qui va se passer, c'est que ils vont les pousser vers cela, et ensuite ils vont se retourner contre eux et devenir un groupuscule violent commettant des meurtres incroyables. Ça va durer à peu près 99 ans, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que au moment où des gens vont se lever contre Ali, s'insurger contre lui, d'autres vont se mettre à ses côtés, notamment de sa famille, dont on a parlé tout à l'heure, et ils vont se mettre à lui coller des étiquettes du style « lui, en fait, c'est lui qui aurait dû être le vrai prophète, mais l'archange Gabriel s'est trompé de message, et de personne au moment de faire la révélation, une petite faction qui existe. » D'autres vont dire que c'est Dieu. Bref, il va y avoir beaucoup de choses, mais ainsi naît ce qu'on appelle, c'est le terme à retenir, Shi'atu Ali. Shi'a qui veut dire groupe de. Donc par exemple, le groupe de Xavier, on va l'appeler Shi'atu Xavier. Donc le groupe de Xavier. Donc vous êtes le groupe de Xavier, donc vous êtes Shi'atu Xavier. Et c'est de là que vient le mot francisé chiite. Shi'a qui veut dire groupe. Et en face, ce qui va se passer par la suite, c'est quoi? C'est que Ali va mourir, assassiné. Muawiya, donc le gouverneur de Damas, prend le pouvoir. Et en prenant le pouvoir, il instaure une police, des services de renseignement, ce qui fait qu'il va rester 20 ans au pouvoir, finalement. 20 ans comme gouverneur et 20 ans comme calife. À l'issue de son règne, il désigne son fils comme successeur. Alors que jusque-là, il y avait l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler des élections. Là, il désigne comme successeur son fils. Et des problèmes énormes éclatent. Le monde musulman est entré en guerre et ben, jusqu'à maintenant, on y est.
On est en quelle année, là, à ce moment-là?
Là, on est en l'an 30, 29 après l'Égypte. Et donc, à partir de là, les problèmes vont commencer. En 60 exactement de l'Égypte, lorsque Muawiya décède, en 60, le monde musulman va vraiment rentrer dans des dissensions pas possibles, au point que la Kaaba va être détruite, brûlée à deux reprises en 64 et 75, va être démolie parce que les Omeyyades vont jeter par catapulte des choses incroyables. Bref, passons. Ainsi se divise le monde musulman à la mort du quatrième calife. Celui-ci lui succède, Muawiya ibn Abi Sufyan, qui en l'an 60 va mourir et laisse à sa place son fils, qui ne va pas durer longtemps d'ailleurs, mais avec lui s'instaure la dynastie des Omeyyades, à laquelle va succéder une autre dynastie qui s'appelle la dynastie des Abbasides, qui va chercher à se venger des Omeyyades en les supprimant tous, exactement comme ils se sont lancés à une campagne d'extermination de tous ceux qui étaient proches du prophète.
Ils n'ont jamais fait la paix
Alors, il y a eu des moments d'accalmie, c'est les moments auxquels il y a pu se développer les choses, les réalisations scientifiques et architecturales que tout le monde connaît et qui ont profité à l'humanité, comme c'est le cas aujourd'hui, on le sait, mais il y a eu énormément de guerres, et ça va me permettre de venir maintenant sur le deuxième point, qui est celui de l'histoire des textes. Donc, jusque-là, si vous entendez parler d'islam sunnite et d'islam chiite, vous êtes maintenant en mesure de donner des éléments de compréhension par rapport à l'histoire, comment elle s'est déroulée. Moi, j'ai voulu être le plus simple possible, mais des questions certainement viendront qui me permettront de rentrer davantage dans les détails.
Le prophète Mahomet est enterré où?
Il est enterré à Médine.
D'accord, il y a un lieu à Médine.
Il y a un lieu, c'est l'endroit où il est décédé, c'est la chambre de sa femme Aïcha, précisément. Donc maintenant, c'est introduit dans la mosquée, là, qui s'appelle la mosquée du prophète, à côté de ses deux premiers califes, Abou Bakr et Omar.
Et à la Mecque, la Kaaba?
C'est là où se trouve la Kaaba, qui est le lieu en direction duquel les musulmans du monde entier prient.
Cette
pierre noire, elle s'appelle Hajar al-Aswad, la pierre noire, qui, d'après les traditions musulmanes, était une pierre blanche, mais dans un monde qu'on appelle le monde des fourmis, dans les traditions musulmanes, Dieu a appelé l'humanité, après l'avoir sortie du dos d'Adam, comme les traditions disent, et leur a fait témoigner le fait qu'il était un et que nul autre que lui ne méritait d'être adoré, et tout le monde aurait dit oui ou a dit oui. Et ensuite il a appelé cette pierre qu'on appelle la pierre noire pour avaler le contrat que les humains ont passé avec lui, à savoir qu'ils allaient l'adorer par la suite. Et un propos du prophète dit: plus on pêche, plus elle noircit, parce qu'il y a une relation directe entre cette pierre dans laquelle est contenu notre contrat avec Dieu et ce que nous faisons. Donc il y a une interaction entre les deux, et c'est la raison pour laquelle il est demandé aux musulmans, quand il en a les moyens, de se rendre au pèlerinage là-bas pour aller témoigner du fait qu'il a tenu promesse. Et d'ailleurs, quand on fait des tours et qu'on arrive à un endroit justement de la Kaaba, on dit wafa an bi'ahdik, je tiens promesse, j'ai fait la promesse d'eux, maintenant je viens, j'ai tenu la promesse, je suis arrivé. C'est bon? Je peux avancer? Bon, cette partie-là était moins importante que celle qui suit maintenant, qui est la partie de l'histoire du Coran. Alors vous allez voir qu'il y aura des liens entre les deux, mais le Coran, comme je vous ai dit, avec la révélation du Coran, commence le message de l'islam. Les traditions rapportent que le premier verset à être révélé au prophète va lui être révélé dans une grotte qui s'appelle la grotte de Hira, dans laquelle le prophète avait l'habitude de se retirer pour méditer. Les traditions disent que c'est l'archange Gabriel qui est venu, qui lui a proposé de réciter ou de lire. Et maintenant, il y a des débats. Enfin, maintenant, le débat sur les questions se posent. Est-ce qu'il était vraiment illettré ou il ne savait pas bien lire ou bien écrire ou, enfin, je ne m'intéresserai pas à cette question aujourd'hui, mais la question se pose, en tout cas, chez les islamologues et autres spécialistes de cette partie de l'histoire. Le prophète reçoit le message et, d'après les traditions musulmanes, il est complètement abasourdi, complètement étonné de que quelque chose d'aussi puissant lui vienne, et il court trouver refuge auprès de sa femme qui s'appelait Khadija, qui va lui prendre la main et l'amener chez un chrétien qui s'appelait Warqat ibn Nawfal, qui était un de ses oncles. Une fois chez lui, celui-ci a dit au prophète que c'était bien un prophète et qu'il allait être le prophète de cette région du monde et qu'il allait bien entendu être combattu par les siens. Et le prophète lui a dit, parce qu'ils vont me combattre, il lui a dit, oui, ils te combattront et ils te chasseront. Et j'aurais aimé être là le jour où ils te chasseront parce que j'aurais été à tes côtés. Le Coran va être révélé selon essentiellement deux choses. La première, c'est un ordre normal. Donc on dit du Coran qu'il a été, dans un premier temps, dans ce qu'on appelle la table gardée, al-lawh al-mahfouz, qui est aux cieux. La première révélation va concerner le passage du Coran de cette table dite gardée au ciel de ce bas monde, qu'on appelle Sama ad-Dunya. Et on dit que cette révélation a eu lieu le mois de Ramadan. Parce qu'il y a un verset du Coran qui dit que le Coran a été révélé le mois du Ramadan. Comme des traditions nous disent que l'ensemble des livres qui ont été révélés aux prophètes, donc pour le christianisme, le judaïsme, etc., l'ensemble de ces écritures pour les musulmans ont été révélées le mois de Ramadan, avec des dates dont je pourrais vous parler, bien entendu, si vous le voulez. Mais pour le musulman, l'ensemble des livres célestes ont été révélés pendant ce mois. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois sur le ciel de ce bas monde, il est rapporté dans les traditions musulmanes que, eh bien, le prophète, l'archange Gabriel, prenait les versets et venait le voir pour les lui transmettre verset par verset, selon un ordre qui, cette fois-ci, était un ordre lié aux vicissitudes de la vie. En gros, il y avait vous et moi qui sommes là, une question se pose, on vient voir le prophète, on lui pose une question et il répond par un verset du Coran qui est révélé à l'instant pour répondre à la question. Ou on venait lui annoncer quelque chose qui allait se produire, mais en tout cas c'était en rapport avec les contingences du temps. Cela m'emmène à vous dire une petite chose très rapidement, c'est que souvent aujourd'hui quand on lit le Coran, on estime qu'il y a des versets violents. Et je me dis, nous, en tant que linguistes, ça nous amuse, pour une raison simple, c'est que quand tu prends un texte, n'importe lequel, si tu le coupes du contexte dans lequel il est situé, ben finalement, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Or, le Coran n'est pas envoyé dans un monde où les peuples ne vivent pas les uns avec les autres. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des luttes de pouvoir, donc le Coran répond à cela. Il y a des réalités de combat, des réalités de conflit, des réalités d'échange, de joute verbale, qui sont un contexte dont on fait abstraction pour dire « Ah ben là, il est violent ». En fait, si vous prenez un texte de 39-45 de n'importe quel auteur ou écrivain français qui écrirait sur la situation de la présence des Allemands ici, je ne pense pas qu'il vous parlerait de faire l'amour ou de s'enlacer, mais il vous parlerait de résistance. Eh bien, de la même manière, le contexte agit fondamentalement sur la manière dont les échanges se produisent. Donc on va dire aux juifs, aujourd'hui on va aller voir, on est bien avec les juifs aujourd'hui, et demain c'est pas le cas. on est aujourd'hui très bien avec les chrétiens et demain c'est pas le cas. Parce que les réalités changent et le Coran vient répondre à des réalités. C'est des choses que des fois, personnellement, en tant qu'islamologue et chercheur, j'ai du mal à comprendre chez certains de mes collègues. Je dis, attendez, soyons sérieux dans ce que nous disons. Ne faisons pas comme si les musulmans vivaient en vase clos. Ils étaient au contact d'autres personnes. Il y avait des conflits dont aujourd'hui on est certain qu'ils ont eu lieu. Et ces conflits-là, le Coran venait y répondre. Et c'est pour cette raison qu'on peut trouver des versets assez véhéments ou assez moqueurs ou assez ceci et cela, parce que vous les situez dans un temps où on les attaquait, où ils étaient en guerre, où ils étaient moqués, ils répondaient à la moquerie par la moquerie, etc. Ou un raisonnement par un raisonnement. Ceci est fondamentalement important. Le danger qui va se produire, c'est que l'on va couper le Coran de tout cela pour faire comme si, aujourd'hui en 2018, le juif avec qui je suis, qui est mon médecin, il est le même que celui qui était en guerre avec le prophète quand tel verset a été révélé. Là est le problème, dirait Shakespeare. Ça, c'est ça la question. Et le problème, il vient essentiellement de là. Et autant chez certains musulmans que chez des non-musulmans, cette question, comment continuer ? Bon, ça nous amuse. Moi, je leur dis tout le temps, mais donnez-moi les versets.
La sourate de la table mise, par
exemple. Ben exactement, sourate al-Ma'ida, ou la fameuse sourate al-Tawba, qui est la dernière, le dernier chapitre à être révélé. Mais on oublie que c'est un contexte où il y a eu des putschs. On a voulu tuer le prophète. On a construit une mosquée pour l'enterrer dedans. On l'a invité à y aller pour qu'ensuite on le tue dedans. Il rentrait de guerre. Je veux dire, on fait comme si de rien n'était et on vient, on dit « Ah non, mais c'est très violent. Attendez, je viens d'échapper à un attentat et je vais vous dire « Viens, je vous fais la bise. » C'est pas comme ça que les choses se passaient. Donc, c'est quelque chose de fondamentalement important et on aura certainement l'occasion d'y revenir. Ceci pour vous dire quoi ? Ceci pour vous dire que quand le Coran est révélé, il n'y a pas de feuille. À l'époque, la feuille n'avait pas été encore créée par nos amis chinois. Il n'y a pas de feuille, donc on écrivait sur des parchemins, sur des bouts de bois, sur beaucoup de choses. Mais la culture arabe était une culture orale, comme ce fut le cas d'ailleurs ici, notamment chez les Zayèdes, dans la littérature grecque ou encore chez nos amis romains et un peu partout dans le monde, parce qu'on n'avait pas inventé l'écriture et on n'avait surtout pas, enfin l'écriture était déjà inventée, mais on n'écrivait pas comme on l'écrit aujourd'hui. Donc ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est qu'il y avait des gens qui, quand la révélation se faisait, eh bien, ils entendaient la révélation et ils retenaient. Sauf que, et c'est une donnée que je vous demande de noter sérieusement, les éléments que nous avons aujourd'hui nous permettent, avec force conviction, de dire que le Coran n'avait pas une manière fixe d'être lu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je vais vous dire par là, c'est que quand un verset était révélé, il était certes révélé en arabe, mais il y avait deux éléments à prendre en considération. Le premier est que l'on pouvait rapporter ce qui est dit dans le Coran par le sens. C'est-à-dire quoi ? Je suis là, je vais dehors, quelqu'un parmi vous rapporte ou retranscrit le cours, mais il utilise les mots qui sont les siens. Retenez ça, parce que ça va nous donner... On va beaucoup discuter de cette question, notamment quand on parlera des vulgates. Cela est aujourd'hui avéré. C'est-à-dire, en gros, que le Coran, le prophète, il le lisait, mais ceux qui étaient autour de lui, contrairement à l'idée qui s'est répandue, n'avaient pas forcément à écrire stricto sensu les choses telles qu'elles sont sorties de sa bouche, mais pouvaient écrire les choses telles qu'ils les ont comprises ou telles que, avec des mots qui sont synonymes de ceux utilisés. Ça, c'est un point que vous ne risquez pas, que je ne risque pas de dire dans une mosquée, parce que les gens ne sont pas encore prêts à entendre cela. Deuxième point fondamental. Oui, parce que, encore une fois, parce que, en fait, je vais vous expliquer. Donc, sinon, on ne va pas s'en sortir. On m'a dit que j'avais 1h30, enfin une heure, donc il me reste encore 20 minutes, et il faut que j'essaye de dire 36 000 choses, et j'aurais dû me projeter, je crois que ça m'aurait permis d'aller plus vite, mais bon, c'est pas grave. Donc, deuxième chose fondamentale, c'est que la manière dont l'écriture s'est faite, L'arabe étant une langue sémitique, on n'avait pas forcément à l'époque, on n'avait pas recours du tout à la notion de ponctuation. Donc on ne mettait pas les diacritiques, on ne mettait pas les points, etc. Résultat, ce qui va se passer, c'est que l'on va pouvoir lire un mot de deux manières. Et du coup, tomber sur un sens ou sur un autre. Un exemple. J'ai ceci. Ça, c'est l'équivalent du son T en français. J'ai cela. C'est l'équivalent du son J en français. J'ai ça. C'est l'équivalent du S. Et j'ai ça. Aussi, le S, la même chose qui se répète deux fois. Il y a un verset du Coran où on a ça. C'est écrit comme ça. Et étant donné qu'à l'époque, il n'y avait pas de ponctuation, donc il n'y avait pas ces points-là, ponctuation, ou ce qu'on appelle le teshkil, mais de mettre les points, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ce mot pouvait se lire de deux manières différentes. La première manière, c'est de dire, je mets deux points ici, un point là, qui me donne la notion de jasous, qui veut dire celui qui est l'espion. Donc je dis, wala tajassasu, et ne vous espionnez pas les uns les autres. Ça, c'est un sens. Ou j'enlève ce point-là. Si j'enlève ce point, j'ai un autre mot, qui est le mot hiss, qui veut dire sentir. Et du coup, je dis, wala tahassasu, ne vous suivez pas. Ne jouez pas les chiens renifleurs en fait. Mais vous voyez que c'est pas le même sens. Selon que vous dites tajassasa, qui veut dire être espion, ou tahassasa, qui veut dire chercher à renifler pour. Donc vous voyez, sauf que le contexte, parce que c'est une langue sémitique, pouvait limiter quand même, on pouvait pas extrapoler à l'infini, mais on pouvait quand même avoir des fois où on pouvait avoir un mot, deux, voire trois. Il y a même un mot qui est dans le chapitre dit Youssouf, le chapitre de Joseph, du prophète Joseph, qui est celui-ci. Je vais l'écrire comme ça. Alors ça, il n'y en a pas en français, c'est l'équivalent de « he ». Ensuite, j'ai ça, c'est l'équivalent de « ye ». Et j'ai ça. Alors, il n'y avait pas les points. Donc, il y a sept manières de lire ça. Sept. Hait, hit, hoit. Je peux le lire. Hait alaka, hit alaka. Jusqu'à sept manières. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les points.
Les points, c'est les voyelles.
Non, les voyelles, c'est autre chose. Les voyelles, c'est ça. C'est A, I, ou. Selon un monsieur qui s'appelait Daniel Jones, A, la plus ouverte, I, la plus fermée, mais de derrière, et ou, là, ce qu'on appelle les consonnes, les voyelles cardinales. Donc, c'est les trois voyelles qui existent en arabe. En arabe de la Mecque. OK? Donc, et ces voyelles-là, on les note selon une barre oblique. Ici, c'est l'équivalent de A. Ça, c'est l'équivalent de « i » et ça, c'est l'équivalent de « ou ». Et j'ai la consonne qui est là, par exemple. Donc, je vais mettre « a » ici, donc ça veut dire « ha ». Si je mets cette petite barre oblique en dessous, je dirais « hi ». Et si je mets ce petit truc-là, je dirais « ou ». Ça, c'est des conventions. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est donc cette richesse de lecture. D'abord, la possibilité de réciter par le sens, et deuxième point fondamental, eh bien le fait que il n'y ait pas de point qui permettait bien sûr que un mot ou deux mots puissent exister écrits écrits de la même manière mais cités différemment. Ceci pour vous dire quoi? Pour arriver à un autre point qui est celui de la manière donc dont les compagnons, donc ceux qu'on appelle sahaba, les compagnons du prophète, vont accueillir le message. Ils vivent avec le prophète et le Coran leur sert de référence. Quand une question se pose, c'est au Coran qu'ils reviennent. Le prophète leur donne cette manière de lire, donc ils pouvaient encore une fois lire selon le sens, pas forcément dire exactement ce qui est sorti de la bouche, ce qui ouvre beaucoup de possibilités, et puis ce que je viens de vous dire à l'instant. Mais le prophète meurt, le Coran n'est pas écrit dans un livre. Par contre, les musulmans sont convaincus, en tant que musulmans, que le texte, le prophète en mourant, était complet. Sauf que il va y avoir à l'intérieur même des compagnons des débats sur les chapitres qui constituent le Coran. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que quand vous prenez le Coran tel qu'il est disposé aujourd'hui, il va du chapitre le plus long au chapitre le plus court. C'est bon ? Si vous prenez le premier chapitre du Coran, il s'appelle Fatiha, l'ouverture, c'est 7 versets. Mais dès que vous le mettez de côté celui-là, vous partez des chapitres les plus longs aux chapitres les plus courts. Donc le plus long s'appelle Surat al-Baqarah, le chapitre la vache, et ensuite, cet ordre-là, ce n'est pas un ordre révélé. Je vais vous en parler dans un instant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les musulmans sont également convaincus que quand le prophète a reçu les versets, ces derniers n'étaient pas dans l'ordre, dans le sens où un chapitre pouvait, par exemple, commencer sur un fait qui mêle Mohamed et Xavier et ensuite partir sur un autre sujet qui mêle deux de vous et revenir sur notre histoire pour la finir, par exemple. Raison pour laquelle le musulman considère que le prophète, certes le Coran n'a pas été révélé dans l'ordre, mais l'archange Gabriel, quand il révélait au prophète les versets, même de manière dispersée comme ça, il venait lui dire « Ce verset, tu dois le mettre après le premier que je t'ai déjà dit. » Et de cette manière, à la mort du prophète, les musulmans considèrent que le Coran a été complet dans le sens où tous les chapitres étaient finis, dans l'ordre voulu par Dieu. Par contre, l'ordre des chapitres entre eux, il n'y a pas. Ça, ce n'est pas révélé. C'est les compagnons qui vont l'organiser de cette manière. Et je vais vous donner l'explication dans une seconde. Deuxième information fondamentale, c'est que par rapport à cela, on va avoir des gens, dès le début de l'islam, parmi les compagnons, qui vont remettre en cause le caractère coranique de certains chapitres du Coran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez des grands compagnons, comme un monsieur qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud, qui est le monsieur de la lecture du Coran, dont on parlera dans quelques instants, qui va estimer que les derniers chapitres du Coran, qu'on appelle les deux protectrices, ne font pas partie du Coran, mais c'est plutôt des invocations. Les deux derniers chapitres du Coran, l'un s'appelle El-Falaq, et l'autre s'appelle El-Nas. C'est les deux derniers chapitres du Coran, lui estimera que c'est deux invocations qui ne sont pas du tout coraniques. D'autres, un peu plus tard, vont considérer le chapitre de Joseph, dont je vous ai parlé un instant, comme étant une histoire à l'eau de rose, ne méritant pas d'être dans le Coran.
Mais pardon, c'est le Joseph de la Bible, de l'Ancien
Testament ? Oui, oui. D'accord. Fils de Jacob, c'est celui-là. Donc il y a un chapitre du Coran qui s'appelle Surat Yusuf, qui ne fait pas partie des plus courts, soit dit en passant. Donc, certains, qu'on appelle l'Ajarida, alors c'est des avis qui ne sont pas majoritaires, hein, mais ils méritent quand même d'être versés au débat pour que nous comprenions le contexte dans lequel les choses se sont déroulées. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que le prophète décède, le Coran est éparpillé sur des bouts des morceaux de parchemin et d'autres endroits, et des morceaux d'eau, mais on disait que les gens le connaissaient par cœur. Et que c'était surtout de là que devait venir la version qui allait être écrite. Abou Bakr, dont on a parlé tout à l'heure, d'où l'intérêt d'avoir parlé de cette partie de l'histoire, va avoir une insurrection interne, dès la mort du prophète, de gens qui ne voulaient pas s'acquitter de l'impôt, qu'on appelle zakat, et contre lesquels il va guerroyer. La plupart des personnes qui connaissaient le Coran par cœur, parmi les compagnons, vont trouver la mort dans cette bataille qu'on appelle la bataille de l'Yamama, ce que certains l'ont appelé la guerre de l'apostasie. Et constatant cela, le deuxième calife, Omar, va voir Abu Bakr et lui dira, écoute, si nous ne mettons pas le Coran dans un endroit, il va partir avec ceux qui le connaissent par cœur, donc il est impératif que nous le regroupions dans un endroit, dans un livre. Et la notion même d'appellation va poser question, comment on va l'appeler? Et si on le réunit, on va l'appeler comment? Et Abu Bakr va être rétif, va se montrer réticent à l'idée de faire quelque chose que le prophète n'a pas fait, parce que le prophète ne l'a pas réuni, le Coran. Et ça va durer comme ça pendant 3 mois, au bout desquels ils vont finir par se mettre d'accord et désigner un jeune qui s'appelait Zayd, dont je voudrais que vous reteniez le nom, Zayd ben Thabit, qui va lui avoir sous ses responsabilités une 40aine de personnes qui vont être désignées pour, n'est-ce pas, eh bien, participer à la collecte du Coran et à son regroupement en l'écrivant. Donc c'était lui le scribe, parce qu'il faisait partie de ceux qui, du vivant du prophète, écrivaient la révélation.
Et là, on est en quelle année ?
Zayd bin Thabit. Là, on est vers la première année à la mort du prophète. Donc, quand le prophète Abu Bakr lui succède, les tout premiers mois vont être marqués par des soubresauts politiques forts qui feront que Abu Bakr va se retrouver dans l'obligation de procéder à cette.
Donc, le Coran est écrit dans les années qui suivent la mort du prophète.
Deux choses. Ouais. N'oubliez pas qu'on a dit qu'il était écrit sur des morceaux de parchemin, etc.
Collecté.
Voilà. Mais il n'était pas regroupé dans un livre. D'accord. Et même quand il va l'être, il y aura les deux questions que nous avons soulevées ici, dont on parlera à l'instant, parce que Xavier m'a demandé de parler des textes, c'est pour ça que je m'attarde là-dessus, pour que vous compreniez par la suite ce qui va se passer. Donc, le Coran va être regroupé de cette manière, et ils avaient des conditions qu'ils avaient émises, entre autres, que qu'aucun verset du Coran ne pouvait être considéré comme en faisant partie s'il n'a pas été récité par deux personnes venant d'horizons différents qui ont pu entendre le prophète le réciter.
L'authenticité, oui.
Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, je passe, j'avance, parce que j'ai le chrono sous mes yeux. Et donc, il va être écrit, il va être regroupé et laissé chez le calife Abu Bakr, et à la mort de celui-ci, il va être transféré, avant qu'Abu Bakr ne décède, une fois le Coran regroupé, il va être laissé chez une des épouses du prophète, qui s'est trouvée être la fille du deuxième calife, Omar, qui s'appelait Hafsa. Donc le Coran va être laissé chez elle. Donc c'est elle qui est devenue la protectrice du livre. Mais, chose très importante, étant donné les deux raisons que je vous ai données, à savoir que l'on pouvait réciter, il y avait la possibilité de dire la même chose, mais avec des mots différents. Étant donné l'absence de points, eh bien, il a existé d'autres lectures. C'est un élément fondamental. Pourquoi ? Pour la raison qui suit. Lorsque le troisième calife arrive, il y va y avoir la conquête de la région d'Azerbaïdjan, pas très loin d'ici, relativement. Et ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que l'on va constater plusieurs lectures qui se présentent. Et les différentes lectures qui se présentent, et j'aimerais vraiment qu'après nous échangions, parce que moi c'est comme ça, c'est là-dedans, je voudrais que le cours se fasse le plus. Lorsque cette expédition se fait, il y a ces différentes lectures qui coexistaient les unes à côté des autres. Et la question d'un monsieur qui s'appelait Huzaifa, qui va être le chef des armées là-bas, va se poser parce que, en fait, ce qui se passait, c'est quoi ? C'est que Xavier récite d'une manière, vous récitez d'une autre manière, et qu'est-ce qui se passe par la suite ? C'est que chacun de vous jette l'anathème sur l'autre en disant que c'est sa lecture qui est la vraie, et celle de l'autre est hypocrite. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe par la suite, c'est que le troisième calife, Othman, va se dire « Non, il faut qu'on regroupe. » Et c'est ainsi que l'on va effacer l'ensemble des vulgates et des différentes lectures qui ont pu exister pour n'en garder que ce qu'on appelle le Coran ousmanien. Ça, c'est par rapport à l'histoire du Coran, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Ensuite, il se pose une autre question, qui est celle des traditions du prophète, qu'on appelle les hadiths. Je vais m'arrêter là pour que nous puissions échanger, parce qu'il y a déjà 54. Et beaucoup de notions ont été données et développées. J'espère qu'on aura la petite demi-heure qui reste pour échanger. Donc, il reste le deuxième type de texte que je n'ai pas abordé, qu'on appelle les hadiths. Voilà.
Peut-être, merci infiniment.
C'est moi.